Cicéron, Le songe de Scipion. Nous sommes à Rome vers 150 avant Jésus-Christ, à la veille de la troisième guerre punique. Scipion Émilien, invité chez le roi, écoute ce dernier jusqu'à une heure avancée de la nuit lui parler de son grand-père Scipion l'Africain. Pendant la nuit, son ancêtre lui apparaît en songe. Il lui montre, depuis la voie lactée où séjournait son âme, l'immense mécanique astrale qui fait l'ordre et la vie de l'univers. Fameuse au Moyen-Âge, mais connue aujourd'hui des seuls spécialistes, ces pages étonnantes, tirées du sixième livre de la République, sont enfin proposées en un volume magnifiquement illustré dans une traduction nouvelle et lumineuse. C'est pourquoi, si tu désespères de revenir ici où tout est préparé pour les hommes que leur grandeur élève au-dessus du commun, que vaut au bout du compte cette gloire que poursuivent les hommes et qui ne dure même pas une infime partie d'année? Si donc tu veux élever tes regards et n'avoir en vue que ce séjour et cette demeure éternelle, tu ne t'abandonneras pas au discours de la foule et tu ne mettras pas tes espoirs dans les récompenses humaines. C'est la vertu elle-même avec ses propres charmes qui doit te conduire à la véritable gloire. Ce que les autres ont à dire de toi, c'est à eux d'en décider et ils le diront de toute façon, mais leur discours tient tout entier dans les étroites limites de cette région que tu as sous les yeux et il n'est personne à propos de qui il ait jamais eu quelque durée. Leur réputation s'écroule avec la mort des hommes et l'oubli de la postérité a tôt fait de l'ensevelir. Lorsqu'il eut terminé, je pris la parole. S'il est vrai, l'Africain, qu'une sorte de chemin vers le ciel s'ouvre à ceux qui ont bien mérité de la patrie, pour mon compte, même si j'ai marché depuis l'enfance sur les traces de mon père et sur les tiennes, et si je n'ai pas déshonoré votre héritage de gloire, je dois tout de même aujourd'hui, mis en face de pareilles récompenses, redoubler d'efforts et ne pas ménager mon ardeur. « Courage, » me répondit-il, « et dis-toi bien que ce n'est pas toi qui es mortel, mais ce corps. Tu n'es pas en effet ce que cette forme fait voir, car ce que chacun est, c'est son âme, et non cette silhouette que l'on peut montrer du doigt. Sache donc que tu es un Dieu, s'il est vrai qu'est un Dieu celui qui donne la vie, qui éprouve les sensations, qui se souvient, qui prévoit, qui gouverne, qui organise aussi, et qui met en mouvement ce corps auquel il est attaché, comme le Dieu suprême le fait à l'égard de ce monde. Et de même que le Dieu éternel meut un monde, en partie périssable, de même l'âme immortelle meut un corps périssable. Ce qui se meut toujours est éternel. En revanche, ce qui donne le mouvement à autre chose, en étant soi-même mis en mouvement de l'extérieur, doit nécessairement cesser de vivre lorsque cesse son propre mouvement. Il en résulte que seul ce qui se meut soi-même ne cesse jamais de se mouvoir, parce qu'il ne se fait jamais défaut à lui-même. Bien plus, à l'égard de tout ce qui est mu, il est source, il est le principe de ce mouvement. Or, un principe n'a pas d'origine. Toute chose, en effet, proviennent d'un principe. Mais le principe lui-même ne peut naître de nulle autre chose, car s'il naissait d'autre chose, ce ne serait pas un principe. N'ayant jamais pris naissance, il ne connaîtra jamais la mort non plus, car un principe détruit ne renaîtra jamais lui-même d'un autre, pas plus qu'il n'en fera sortir un autre de lui-même, tant il est nécessaire que toute chose dérive d'un principe. On doit conclure de cela que le principe du mouvement tient à l'être qui se meut soi-même et que cet être ne peut ni naître ni mourir, ou alors, nécessairement, le ciel entier s'écroulerait et toute la nature s'arrêterait sans pouvoir jamais retrouver une force sous l'impulsion de laquelle reprendre son premier mouvement. Donc, s'il est évident que ce qui se meut soi-même est éternel, qui pourra nier que ce pouvoir appartient à la nature de l'âme ? Tout ce qui reçoit son mouvement d'une impulsion extérieure est inanimé. Au contraire, un être animé est l'être mu par une force intérieure qui lui est propre. Car telle est la nature propre de l'âme, sa force. Si donc l'âme est seule entre tous les êtres, telle qu'elle se meut toujours elle-même, alors il est sûr qu'elle n'est pas née d'autre chose et qu'elle est éternelle. Exerce-la donc, cette âme, aux missions les plus belles, au premier rang desquelles sont les devoirs qui relèvent du salut de la patrie. Entraînée et formée à ce service, ton âme déploiera ses larges ailes pour prendre son plus bel essor vers ce séjour dont elle fera sa demeure. Elle sera d'autant plus rapide à le faire si, déjà encore prisonnière de son corps, elle se sera élancée au dehors et se sera le plus possible affranchie de ce corps en s'adonnant à la contemplation des réalités d'en haut. Tous ces hommes qui se sont abandonnés au plaisir de la chair et s'en sont faits comme les serviteurs, esclaves de leurs appétits et jouets de leurs plaisirs, leurs âmes ont violé les lois des dieux et des hommes. Elles ont quitté leur corps, mais elles errent en tournoyant autour de la terre elle-même, sans pouvoir revenir dans ce séjour céleste avant plusieurs siècles de tribulation. Il s'éloigna. Quant à moi, je sortis de mon sommeil.